Bonjour mes frères et sœurs, ce matin, plutôt ce soir, je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter cette prédication. On va faire une lecture dans le Logion 63. Ah, qu'est-ce que c'est le Logion 63? Ne cherchez pas dans vos Bibles, il ne s'y trouve pas. Il s'agit d'une parole, Logion signifie parole, et c'est une parole qu'on trouve dans l'évangile de Thomas. Vous vous rappelez que j'ai écrit un livre, ce sont les commentaires de l'évangile de Thomas. Vous pouvez vous le procurer gratuitement sur Révélation Bible en nous écrivant. Enfin, vous pouvez participer pour le prix du port, ça ne fera pas de mal. Hein. Et on vous l'enverra. Donc je vous lis le Logion 63, c'est un évangile qui a été retrouvé au siècle passé. Voilà ce qui est écrit. Jésus a dit, il y avait un homme riche qui avait une grande fortune. Il dit, j'emploierai ma fortune à semer, moissonner, planter, remplir mes greniers de grains, afin que je ne manque de rien. Voilà ce qu'il pensait dans son cœur. Et la nuit même, il mourut. Que celui qui a des oreilles entende. Évidemment, ça n'est pas sans nous rappeler un passage de nos évangiles, n'est-ce pas? Quelle est la phrase clé de ce logion? Eh bien, je pense, à mon avis, que c'est « afin que je ne manque de rien ». Vous savez, depuis 40 ans, plus de 40 ans maintenant, je voyage de par le monde et j'ai souvent eu l'occasion de rencontrer des gens riches, des gens très riches, même qui avaient des fortunes colossales et qui avaient, comme on dit, réussi, n'est-ce pas? En fait, personne ne travaille pour autre chose, n'est-ce pas, que l'argent. On travaille toujours afin de ne manquer de rien. Hier, je lisais un reportage dans Le Monde. C'était un journaliste qui interviewait des prostituées masculins et il y en a un qui a dit à un moment donné qu'il faisait ça non pas pour le plaisir, mais pour l'argent. Et puis il a ajouté, enfin, je fais ça pour l'argent comme tous ceux qui travaillent d'ailleurs. Ça m'a fait tout drôle. C'est vrai qu'on travaille pour l'argent. Alors, où est le mal à vouloir travailler honnêtement? Par exemple, comme cet agriculteur dont Jésus nous parle ici, quel est le mal? Ce texte de Thomas me fait penser à un autre texte que on pourrait lire dans Matthieu 24, 38. Matthieu 24, 38, si vous voulez bien le lire avec moi. Voilà ce qui est écrit là. Oui, ben ça ne doit pas être Matthieu 24, 38. Attendez. Oui, c'est ça. Il disait, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme, donc de lui-même, de Jésus, quand il reviendra. En ces jours-là, donc au temps de Noé, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les engloutit tous. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Jésus dit qu'à la fin des temps, donc, à la fin du temps des nations, pas à la fin du monde, hein, les gens boiront, mangeront, prendront femme et mari, donc ils se marieront leurs enfants. Et alors? Hein? Et alors? N'est-ce pas légitime? Qu'y a-t-il d'extraordinaire? On a fait ça dans tous les millénaires. De boire, de manger, de se marier, de faire des enfants, on a fait ça tout le temps. Eh bien, ce qui manquait à ces gens qui mangeaient, buvaient, se mariaient, tout ce qui manque aujourd'hui à ces gens qui mangent, boivent et se marient, c'est qu'ils ne sont occupés que d'eux-mêmes, en fait, et de leur petit cercle familial. En tout cas, ils ne s'occupent pas de savoir où en est l'histoire du monde créé par Dieu. D'abord, maintenant, ils ne croient même plus que c'est Dieu qui a créé le monde, n'est-ce pas? Ça s'est fait par hasard, sous une frite. Comme ça, le monde est apparu, l'univers est apparu par hasard. Parce qu'il faut être bête pour croire des trucs pareils. C'est infernal. L'agriculteur dont nous parle Jésus vivait aussi dans une insouciante sécurité, comme les gens du temps de Noé. Aucun n'a écouté, aucun n'a pris au sérieux le message prophétique de Noé, et puis le déluge est arrivé comme annoncé. Au temps de Sodome et Gomorre, la même chose. Personne n'a cru que ces hommes que Lot recevait chez lui étaient des anges. Personne. Et de nos jours, c'est la même chose. Le message, c'est pas qu'il n'est pas prêché. Le message parcourt le monde entier. Les anges exercent leur ministère comme jamais auparavant. Les anges terrestres, les anges célestes. Mais qui les écoute? Ah non. Au mieux, quand on entend le message, alors on le dissèque, on en discute, n'est-ce pas, on analyse, et puis on critique, n'est-ce pas. Vous savez, c'est très humain d'agir comme ça. Je dis très humain pour pas dire très charnel. Quand on veut pas écouter Dieu, parce qu'il est dérangeant, Dieu, il veut qu'on se repente, il veut qu'on change de vie, etc. Je me rappelle un de mes amis, un jour, je visitais sa maison, et il y avait des statues de Bouddha partout, avec de l'encens qui brûlait, il dit, ton Jésus, moi je préfère mon Bouddha. Excusez-moi l'expression, il m'a dit, mon Jésus, il m'emmerde, mon Bouddha, il m'emmerde pas. Hein, quand je rentre bourré chez moi le soir, il me fait pas de reproches. Hein. Ah voilà, c'est ça, c'est surtout ça, cette indifférence, de ne pas vouloir écouter le message de Dieu qui nous aime, c'est parce que les gens ne veulent pas, n'est-ce pas, se convertir, se repentir, changer de vie. C'est surtout ça. Vous savez, c'est très humain. Quand on veut pas écouter Dieu aussi, alors on va chercher des défauts chez les serviteurs de Dieu, chez les envoyés de Dieu. Et puis comme ça, le message est étouffé par des multitudes d'avis, d'opinions, de moi je pense que, je le sens pas comme ça, la nanana. Dieu est en train de rétablir toute chose de nos jours et comme il l'a toujours fait, il confirme sa parole en faisant des miracles. Quand sa parole est prêchée, il y a des guérisons, des miracles. Mais ça n'impressionne presque plus personne. Les paralytiques marchent. Oh, c'était sûrement une maladie psychosomatique. Hein? Des jambes qui se rallongent. Oh, c'est un truc de manipulation. Hein? Des aveugles qui voient. Oh, la médecine en fait autant. Et puis ce Branham, il a annoncé des prophéties qui se sont même pas accomplies. Ah bon? Lesquelles? Parlons-en. Et puis quand bien même, il serait pas le seul prophète à qui ça serait arrivé. Prenez Jonas et la destruction de Ninive, par exemple. Voilà, c'est pas arrivé la destruction de Ninive. Pourquoi? Ah, il faut une intelligence spirituelle, il faut. Et puis ce Osborne, ce pauvre Osborne avec sa moustache à la d'Artagnan. Et puis ceci, et puis cela. Bon, mes frères et sœurs, vous pouvez vous occuper de vos affaires, vous pouvez vous occuper d'entretenir correctement votre famille, vous pouvez chercher à ne manquer de rien, tout ça c'est légitime. Par contre, que vos yeux et vos cœurs soient tournés vers Jésus. Parce que c'est Jésus la source. Agé 2,8. Car l'or et l'argent sont à l'Éternel. Ecclésias 5,18. Des richesses et des biens, c'est là un don de Dieu. Psaume 23,1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deutéronome 8,18. C'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses. Proverbe 10,22. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Mes frères et sœurs, Dieu dit expressément, ceux qui me cherchent, me trouvent, et avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Proverbe 8,17. Voilà, le riche dont nous parle l'Ogion 63, et les gens de Sodome et Gomorre, et les gens du temps de Noé, ne se souciait pas du tout de Dieu ni de son œuvre à accomplir sur terre. C'est ça le problème. C'est là le problème de la majorité des riches. Ils sont souvent grisés par l'argent et ils se mettent à vivre comme si Dieu n'existait pas. Des riches? Mais c'est quoi un riche? Je me rappelle de Georges Marchais,
hein, secrétaire du Parti communiste. Il disait, un riche, c'est quelqu'un qui a un appartement, une maison de campagne, et un frigidaire et une voiture. Ben voilà. Alors on est tous riches. Hein.
Un riche, un Français moyen est riche par rapport à la majorité des gens du continent africain, par exemple. Fait réfléchir, non, un riche, c'est quoi? Ben, nous, vous et moi, on est des nantis, hein. On est des riches. Ah, tiens, on va lire Jacques 5, verset 1 à 6. C'est Jacques qui dit, « Et vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent, vos richesses sont pourries. » Vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené sur terre une vie de luxe et de délices. Et vous vous êtes rassasié au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Cette sorte de riche pense à ses propres moissons au lieu de penser à ses moissonneurs. Ça vous fait penser à quelque chose, n'est-ce pas? Toutes ces injustices sociales. On vit dans une époque où maintenant ces choses montent à la surface et tout cela apparaît. Mais il y a d'autres choses, il y a une autre moisson, il y a aussi la moisson de Dieu. Jésus nous dit, le monde c'est le champ de Dieu, la moisson c'est la moisson de Dieu. Et la moisson est grande, et il y a peu de personnes qui moissonnent là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est mal payé. Le nombre, n'est-ce pas, des personnes qui prêchent pour aller sauver ces gens, là, il y a un travail immense, et les moissonneurs sont ceux donc qui travaillent dans ces champs, les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les pasteurs, autres serviteurs de Dieu. Mais qui s'en soucie? Qui entre en affaire réellement, sérieusement avec eux? Non. On s'occupe de son chez-soi, de son bien-être, du bien-être de sa famille, et puis on laisse tomber les serviteurs de Dieu. En faisant cela, vous tombez sous la malédiction de Malachie 3, 8, 9, et en prenant rien à cœur, sinon vos propres intérêts, vous tombez sous la malédiction de Malachie 2, 2, 3. Malachie, voilà ce qu'il dit, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Ils ne savent même pas en quoi ils trompent Dieu.
Ah, oh, on ne sait pas. Ah bon, on te trompe, mais en quoi? Ah bon? Oh, oh.
Et Dieu dit, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes, les offrandes, les redevances, comme dit la nouvelle version là, que je viens d'acheter, dans les redevances de ce que vous devez. Vous êtes maudits de malédiction. Malachie 3, 8, 9. Et puis il y a Malachie 2, 2, 3, dit, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Oui, je les maudirai, car aucun de vous ne prend rien à cœur. Voici, je vais menacer votre descendance. Aïe! Écoutez ce que Dieu dit. Je vous jetterai du fumier à la figure. Alors, je pose la question, quel fumier? Le vôtre, votre propre merde. Je vous la jetterai dans la figure, le fumier qui provient de vos fêtes. Hein, quand vous faites là, vous faites ripaille, vous bouffez. Et puis, ce fumier-là, qui provient de... je vous le jetterai à la figure. Ce que Dieu dit. Non, mais attendez, c'est terrible. Malachie 2, 2, 3. Mais, oh, Michel, mais non. Oh, mais non. Dieu a changé maintenant. Mais non, c'est plus le même. Et puis, attends, Michel, cette parole-là, c'est pour les Juifs. C'est pas pour nous, les chrétiens. Et puis, en plus, Malachie 2, 2, c'est pour les prêtres, on n'est pas concernés. Je vous ai dit qu'on a tous, nous détenons la prêtrise, à moins que vous ne la déteniez pas. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, de prêtres, à moins que vous, non, peut-être vous ne l'êtes pas. Et puis, Michel Osborne avec sa moustache. Hein? Et puis, il y a tant de faux prophètes ramasseurs d'argent, j'ai tellement été trompé déjà maintenant.
Oui, vous avez raison. Ne faites rien, restez comme ça. Vous avez raison. Vous savez quoi? Dieu se chargera du problème et il convaincra même des inconvertis pour aider à financer son œuvre. Exactement comme il est capable de faire crier des louanges aux pierres du chemin si personne ne veut le louer. Cette sorte de riche-là, Jésus dit qu'il mourra. Ah ben, voilà la belle affaire, vous me direz. Mais tout le monde meurt. Oui, c'est vrai, vous avez raison, tout le monde meurt. Mais dans quel état vous voulez mourir? Selon Matthieu 24, 46, ceux qui s'occupent du royaume de Dieu seront trouvés fidèles à l'heure de leur mort. Alors, mes frères et sœurs, quoi que vous fassiez, faites-le pour Dieu. Si vous êtes quelqu'un qui dispense la parole de Dieu, ne le faites pas pour un gain sordide, 1 Pierre 5, 2. Si vous avez la bosse des affaires, n'oubliez pas de soutenir ceux qui sont appelés au service de la prédication, 1 Timothée 5, 17, 18. Nous avons tous notre place à tenir. Nous avons tous quelque chose à faire suivant les talents, les qualités que nous avons, les possessions que nous avons. Alors, n'oubliez pas ceux qui servent dans le ministère de la prédication. C'est tellement normal de penser à eux. Paul disait en son temps, parce que déjà les gens avaient des problèmes avec cette histoire d'argent, n'est-ce pas? Ah, l'argent! Oui, bien sûr. Alors, ils avaient déjà des tas de problèmes. Alors, Paul était obligé de leur dire, mais si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? 1 Corinthiens 9, 11. En d'autres termes, puisque c'est moi qui vous prêche l'évangile et que vous écoutez, est-ce que c'est anormal que vous me souteniez? C'est ce que Paul dit. T'as fait réfléchir. Déjà à l'époque, vous voyez, il y avait des gens comme ça. L'autre jour, avec des amis, je suis allé à une retraite dans une abbaye catholique. Et puis alors, j'ai assisté, n'est-ce pas, tous les jours à des cérémonies au cours desquelles ils récitaient « Je vous salue Marie », les Ave Maria, non plus finalement, je ne savais pas que c'était si long, mais c'est long, c'est terrible. Et il y avait toujours une phrase qui revenait, glauque, sombre, lugubre, c'est « Et à l'heure de notre mort ».« Et à l'heure de notre mort ». Eh oui, ben ils y pensent, à l'heure de leur mort. Tout le monde y pense. Vous y pensez jamais, vous? Ça fait réfléchir. Faut pas se voiler la face. Un jour ou l'autre, vous allez quitter ce monde, Alors, ne soyez pas, à l'heure de votre mort, trouvés en plein délire de possession matérielle. Jésus dit, là où est votre trésor, là est votre cœur. Où est-ce qu'il est votre cœur? Ben là où vous donnez de l'argent. Vous m'aimez? Eh ben prouvez-le. Pas en me disant je t'aime. Ça me fait une belle jambe pour aller travailler pour le Seigneur. Votre cœur est là où vous mettez votre trésor. Alors bien sûr, on doit donner à César ce qui est à César. César, ça représente le monde. Alors, mais n'oubliez pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. Vous êtes libre avec votre argent, de donner aux pauvres de ce monde. Et vous êtes libre de donner de la main à la main aux pauvres de votre église. Vous pouvez, si vous voyez quelqu'un qui a besoin dans votre église, vous pouvez lui donner de l'argent. Personne ne vous dira rien, au contraire, c'est très correct de le faire. Mais ça, c'est donner au monde, Matthieu 25, 45. Ou c'est donner aux frères, Matthieu 25, 40. Et c'est très bien. Rendez à César, rendez aux choses du monde, dans le monde, et aux frères, c'est normal. Mais ce qui est à Dieu, dîme offrande pour la maison de Dieu, eh bien, c'est à l'Église que ça doit être donné, à l'Église que Jésus bâtit. À l'Église que Jésus bâtit. Évidemment, ce message est réservé aux frères et sœurs qui ont un accès à Internet. Vous avez un mot de passe, sinon vous ne pourriez pas écouter ce message. Parce que c'est tellement délicat, on ne peut pas jeter ça comme ça, n'importe comment. parce que c'est un message qui ne peut pas être entendu par des oreilles charnelles. Il faut être spirituel. Il faut que nous puissions comprendre ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Et avoir la foi. Et avoir l'amour. Pour ça, il faut être chrétien. Vraiment chrétien. Pas simplement une personne qui va s'asseoir dans une église et puis qui tape des mains et puis qui chante et qui dit Alléluia et puis qui ensuite, voilà. Non, mes frères et sœurs, soyez conséquents. Cette parole de Dieu, là, au sujet de cet homme riche, c'est pas seulement pour les autres, c'est pour chacun de nous. Pour chacun de nous que Jésus a dit cela. Seigneur, permets que nous prenions cela au sérieux et que nous agissions en conséquence afin d'être bénis. Merci Jésus. Amen.